Nous continuons notre petite série dans l'Épître aux Galates. Nous allons lire donc toujours au chapitre 1, les versets 11 à 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je vins encore à Damas, je revins encore à Damas, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ce passage est très édifiant pour notre foi et très encourageant. Parce que Paul va nous démontrer d'une manière très forte qu'il détenait de la part de Dieu une véritable autorité d'apôtre et que l'évangile qu'il prêchait était vraiment le vrai évangile et que cet évangile ne venait pas des hommes, mais de Dieu. C'est ce qu'il entreprend de démontrer aux Galates. Donc à qui il a déjà prêché l'évangile de la pure grâce et non des œuvres, comme le prétendent leurs faux docteurs. Et aussi, il démontre du même coup qu'il a vraiment directement de Christ l'autorité d'apôtre. Les deux choses, l'évangile qu'il prêche et l'autorité apostolique, vont de pair, bien sûr. Et pour sa démonstration, Paul utilise des arguments très forts parce qu'ils sont basés sur des faits constatables et non sur des raisonnements théologiques. Nous aurons donc deux grandes parties. Première partie, l'évangile n'est pas d'origine humaine mais divine. Et deuxième partie, qui va avec, la conversion n'est pas d'origine humaine, mais d'origine divine. La première partie. Paul commence par une déclaration péremptoire et très solennelle. Dans les versets 11 et 12, il nous dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église, ou plutôt des mouvements religieux, ont affirmé avoir une révélation de Dieu, mais aucun d'eux n'a jamais pu le prouver. On peut penser à Mahomet avec son Coran, ou à Joseph Smith avec son livre de Mormon, qui avait soi-disant vu des tables d'or, mais il n'a jamais pu le prouver. Paul ne se contente pas d'affirmer qu'il a reçu l'Évangile par une révélation de Jésus-Christ, mais il le prouve. Dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Galates, il nous expose les événements clés qui entourent sa conversion. Et ces événements sont les suivants, en résumé. Dans les versets 17, 18 et 19, il démontre qu'il n'a reçu aucune formation ni aucun enseignement de la part des hommes et même pas des apôtres de Jérusalem. La preuve, c'est que tout de suite après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, et sa brève rencontre aussi avec Ananias, dans Actes 9, 20, on peut lire que Paul reste 15 jours à Damas pour y prêcher l'évangile. Donc, sans avoir reçu aucune formation ni aucun enseignement de la part des hommes. Et tout de suite après ça, il nous dit qu'il part en Arabie, où, c'est-à-dire très loin de tout milieu chrétien, et il y reste 3 ans, c'est-à-dire très longtemps. Très longtemps, loin de toute influence chrétienne. Et c'est seulement après 3 ans qu'il a visité l'apôtre Pierre à Jérusalem, où il n'est resté que 15 jours, c'est-à-dire trop peu de temps pour recevoir une formation ou un enseignement un peu poussé sur l'Évangile. Et il faut noter aussi que lors de sa visite à Jérusalem, sa visite à l'apôtre Pierre, à aucun moment il ne s'est soucié de faire valider son évangile, l'évangile qu'il prêchait déjà depuis longtemps, depuis sa conversion. C'est pour Paul une manière de prouver la totale indépendance de l'évangile qu'il a prêché jusqu'à maintenant, jusqu'alors, indépendance par rapport à d'autres sources humaines, et notamment apostoliques, les apôtres de Jérusalem. Le point suivant, l'évangile n'est pas non plus une invention de Paul. Paul dit, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et il utilise ici en grec une forme passive, même en français, une forme passive peu esthétique, l'évangile qui a été annoncé par moi. Et cette formulation un peu lourde a un but, c'est de souligner le fait que l'évangile qu'il prêche est également indépendant de sa propre personne. C'est comme s'il disait, l'évangile ne vient pas de ma propre invention. Ce n'est pas moi qui ai concocté ce message, ni personne d'autre. Alors, comme s'il disait aux Galates et à leurs faux docteurs, alors d'où voulez-vous qu'il vienne, que vienne ce message, si vous ne me croyez pas quand je vous dis qu'il m'a été révélé directement par Christ ressuscité? Et pour enfoncer le clou, Paul fait un serment solennel au verset 20. Il dit, dans ce que je vous dis, voici devant Dieu, je ne mens point. Pourquoi s'exposerait-il au parjure si c'était une déclaration mensongère? Il n'a strictement aucune raison de le faire. Un autre point, que devons-nous entendre par l'expression au verset 5? Une révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'on lit le récit de sa rencontre avec Christ dans le livre des Actes qu'on a lu tout à l'heure, on a l'impression que tout s'est passé assez rapidement, peut-être même pas en 1 heure. Il est difficile de conceptualiser un processus de révélation portant sur une très grande quantité d'informations en si peu de temps. Comment expliquer ce qui s'est passé? Il est possible que indirectement Paul nous donne lui-même la solution de ce petit problème. Voici comment. Nous savons qu'en tant que pharisien, Paul avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, et il n'est pas impossible qu'au cours de sa rencontre avec Christ se soit déroulé un processus semblable à celui que Paul lui-même mentionne dans 2 Corinthiens 3,14. À propos des Juifs qui rejettent Christ, Paul dit dans ce passage, je cite, Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il n'est donc pas impensable que Paul soit en train de décrire ici ce qu'il a vécu lui-même lors de sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Peut-être que le voile qui était sur les yeux de Paul en tant que pharisien, concernant notamment les plus de 300 prophéties messianiques, soit donc tout d'un coup tombé et que tout l'évangile se soit mis en place dans son esprit. La foi en Christ a peut-être soudain éclairé Paul sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Parce que si on y réfléchit bien, l'Évangile, c'est l'Ancien Testament plus Christ. Un autre point maintenant, on peut légitimement se poser la question suivante. Qu'est-ce que Paul connaissait du christianisme avant sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, avant sa conversion? Il est bien évident que si Paul, disons Saul de Tarse, persécutait les chrétiens, ce n'est pas pour des raisons sociales ou ethniques, mais pour des raisons théologiques. Il avait donc une certaine connaissance du christianisme, du moins certaines notions. On peut trouver quelques indices de cela dans les épîtres de Paul. Des notions qu'il ne tenait pas directement de Christ, mais plutôt d'une tradition qui était déjà fixée, une tradition ecclésiale, ou bien d'autres témoignages humains. Je vous donne simplement deux exemples de ça. Dans 1 Corinthiens 15,3, ce passage bien connu, dit, Paul déclare, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ce qui implique un peu une tradition ecclésiale qui était déjà, ou qui commençait à se fixer. Deuxième exemple, dans Actes 20, 35, Paul parle de, je cite, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, c'est-à-dire de Christ, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En réalité, ces mots de Jésus, on ne les trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Et Paul les tient vraisemblablement de quelqu'un qui les a entendus lui-même de la bouche de Christ, de Jésus. Un autre point maintenant. Une connaissance limitée de l'Évangile peut avoir des effets néfastes. Avant sa rencontre avec Christ, Paul connaissait donc l'Évangile, mais d'une manière limitée, partielle et peut-être fausse sur certains points. Ce qui est d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, le cas de la majorité des gens qui nous entourent. C'est ce qui expliquait dans une certaine mesure le fanatisme antichrétien de Paul, de Saul de Tarse, puisque c'était avant sa conversion, comme cela explique aussi cette demi-connaissance, ça explique aussi le fanatisme qu'on rencontre aujourd'hui dans certains milieux. C'est le problème d'une demi-connaissance de l'Évangile. Louis Pasteur, le découvreur des microbes, a dit ceci, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Je passe maintenant à la deuxième grande partie de cette méditation. La conversion n'est pas d'origine humaine, mais divine. C'est la pointe du témoignage de Paul. Le fait le plus constatable dans la vie de Paul, c'est sa conversion. Il suffit de voir le changement extraordinaire qui a eu lieu dans toute sa personne après avoir rencontré Christ. Voilà un fanatique anti-chrétien, un maniaque du légalisme qui se met soudain à prêcher Christ et le salut par la seule grâce. Et il a même donné sa vie pour prêcher ça. Donc le changement qui a eu lieu en lui est absolument inexplicable. Rien en lui, absolument rien, ne peut expliquer cette conversion sur le plan humain. Pourquoi? Parce que justement, sa conversion n'est pas d'origine humaine. Et c'est la pointe de l'argument de Paul. Et pourtant, si vous êtes converti, et que votre vie a beaucoup changé, tout d'un coup, vous rencontrerez toujours des gens qui vont vous dire, tu as eu une prise de conscience. Voilà tout. Ou bien ils vous diront, c'est par la force de ta volonté que ta vie a changé comme ça. Une manière d'évacuer l'intervention de Dieu. Mais le texte ne nous dit pas cela, bien au contraire. Dans les versets 15 et 16, Paul déclare: Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, il est clair que l'initiative du salut, quand on lit ces versets, vient entièrement à 100% de Dieu, avec tout ce qui en découle, l'élection, l'appel, la grâce inconditionnelle. Bien sûr, il est difficile pour nous, humains, de conceptualiser ces choses, parce qu'il est difficile pour nous qui vivons dans l'espace et dans le temps de nous mettre à la place du point de vue de Dieu, si on veut. Mais une chose est claire, c'est que lorsque Dieu nous adresse son appel, à nous qui sommes dans l'espace et dans le temps, la contrepartie, c'est que nous avons la responsabilité de répondre à cet appel, de nous repentir et de sortir de la mort du péché. C'est possible, car avec son appel, Dieu donne aussi les moyens d'y répondre. Lazare est sorti du tombeau lorsque Jésus l'a appelé et pourtant il était mort. Il en va de même pour Paul qui gisait entièrement dans les liens de la mort spirituelle. Et il en va de même pour quiconque se convertit. Rien de ce qui se trouvait en Paul ne pouvait expliquer sa conversion. Parce qu'aux yeux de Dieu, il était mort, entièrement mort. Rien de ce qui se trouve en nous ne peut expliquer que Dieu nous appelle pour le salut. Et ceci nous amène à notre point suivant. Dieu ne nous appelle pas à cause de nos mérites. Alors, quelqu'un dira peut-être, mais est-ce que ce n'est pas le zèle extraordinaire de Paul ou sa connaissance très poussée de l'Ancien Testament qui ont incité Dieu à se dire, tiens, je vais pouvoir utiliser ce gars-là pour prêcher l'Évangile. Et on entend parfois ce genre de raisonnement dans nos églises. Des gens qui disent, écoutez ce type, quelle éloquence il a, ça ferait vraiment un prédicateur exceptionnel. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu procède. La Bible nous en donne plusieurs exemples. Moïse qui avait des problèmes d'élocution, Jérémie qui avait aussi des problèmes d'élocution, en plus qu'il était encore un enfant. Et Dieu en a fait des prophètes puissants. Pensez aussi à Étienne, homme rempli de l'esprit, de connaissance de la parole de Dieu et qui savait bien parler. On le voit en lisant Acte 7. À quoi Dieu l'a-t-il appelé? À servir aux tables. Voilà comment Dieu opère selon sa sagesse éternelle et non selon nos critères humains. Paul avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament aussi, et on aurait pu se dire, tiens, Dieu va l'envoyer prêcher l'Évangile aux Juifs. Eh bien non, Dieu l'a envoyé prêcher l'Évangile aux païens. Ce qui nous amène à notre point suivant. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec nos qualités, mais tout à voir avec notre péché. La preuve, c'est que la grâce de rencontrer Christ est tombée sur Paul de manière totalement inattendue et contre toute espèce de critères logiques. Dieu l'a stoppé net dans sa course, il l'a arrêté comme la plupart des hommes alors qu'il était en train de courir après son péché favori à Saul de Tarse, c'était la chasse aux chrétiens, et pour nous c'est peut-être autre chose. Il était en train, au moment où Dieu l'a arrêté sur son chemin, il était en train de persécuter les chrétiens de Damas, ce qui est un péché d'une gravité extrême, puisqu'il persécutait Christ lui-même, étant donné que l'Église et les chrétiens sont le corps de Christ. Et c'est pourquoi Christ dit à Paul, sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Donc, au moment où il reçoit son appel pour le salut, Paul était vraiment au comble de l'anti-chrétien, de l'anti-Christ. Mais au lieu de recevoir le châtiment qu'il méritait, Paul a trouvé la repentance et le salut. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être stupéfait devant la miséricorde insondable et surtout incompréhensible de Christ? Et ici, il y a une petite application pour nous. C'est que nous ne devrions jamais nous dire, lorsque nous témoignons de l'Évangile à quelqu'un, ce type est tellement coriace, tellement endurci dans ses positions qu'il est impossible qu'il se convertisse. Je laisse tomber. Nous ne devrions jamais nous dire ça quand on considère justement le cas de l'apôtre Paul, disons de Saul de Tarse. Donc la conversion de Paul et le changement qui a eu lieu en lui étaient humainement impossibles et ils se sont produits contre toute attente et resteront humainement inexplicables sans l'intervention de Dieu. C'est impossible de l'expliquer. Et c'est la pointe de son argument vis-à-vis des Galates et surtout de leur faux docteur. Ceci nous amène à notre dernier point, l'influence du témoignage de Paul. Elle a été considérable et ça a été une preuve tangible que l'Évangile est vraiment une puissance pour le salut de quiconque croit. Le bruit de la conversion de Paul s'est répandu dans toute la région et jusqu'en Judée. Le texte dit au verset 24 que les églises de Judée glorifiaient Dieu au sujet de Paul. Vous noterez au passage une pointe d'ironie qui vise les faux docteurs galates indirectement, eux qui prétendent représenter l'orthodoxie des milieux chrétiens de Jérusalem et de Judée. C'est un peu comme si Paul leur disait, à Jérusalem et en Judée, tout le monde rend gloire à Dieu pour l'évangile que je prêche et pour mon ministère d'apôtre, et vous, comment se fait-il que vous ne soyez pas encore au courant? Nous arrivons à la conclusion, deux brefs points de conclusion. Premier point, un encouragement inattendu pour notre foi. Suite à la forte démonstration de Paul, nous faisons une constatation. L'évangile que nous avons aujourd'hui entre les mains a reçu, si on peut dire, une double attestation et par deux canaux indépendants. Les autres apôtres, c'est-à-dire Pierre, Jean, etc., ont reçu eux aussi l'évangile directement du Christ, mais du temps de son ministère terrestre. Alors que de son côté, Paul reçoit son évangile du Christ ressuscité. Est-ce que ces deux évangiles, reçus par deux canaux absolument indépendants, sont bien les mêmes évangiles? Oui, exactement les mêmes. Les Galates et leurs faux docteurs l'apprendront bientôt, peu de temps après ça, lors du concile de Jérusalem, dont il est rendu compte dans Acte 15. Concile au cours duquel donc les apôtres reconnaissent spontanément l'autorité apostolique de Paul et l'évangile qu'il a prêché pendant des années avant ça. Et aussi dans Galates 2,9, Paul rapporte une autre visite à Jérusalem et il dit, je cite, Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Donc le fait que l'évangile de Paul est le même que l'évangile des autres apôtres, alors que comme on l'a vu et comme il l'a prouvé, il n'y a pas eu de communication entre eux là-dessus avant, c'est la preuve que Paul n'a pas menti quand il dit tenir son évangile directement de Christ. Et de plus, c'est aussi la preuve qu'il n'a pas été victime d'une hallucination, comme le prétendent certains. Ça, c'est un grand encouragement pour notre foi. Et aussi, quel impact ça a dû avoir sur les Galates et leurs faux docteurs. Et pour enfoncer le clou, lorsque Paul met en avant sa conversion et le bouleversement qui a eu lieu dans sa vie par sa rencontre avec Christ ressuscité, c'est un peu comme s'il disait aux Galates et à leurs faux docteurs, si vous considérez que ce changement extraordinaire dans ma vie a pu venir ne peut pas venir de l'homme, mais seulement de Dieu, alors vous êtes obligés d'admettre que l'évangile que je prêche ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Et pour couronner cet ensemble, cette argumentation très forte de Paul, nous avons une attestation formelle par l'apôtre Pierre lui-même que tout ce qu'a écrit les 13 épîtres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, c'est presque la moitié du Nouveau Testament, puisque je crois que le Nouveau Testament contient 27 livres, et les 13 épîtres de Paul font presque donc la moitié. La confirmation donnée par Pierre dans 2 Pierre 3,16 est aussi quelque chose de très fort. Pierre dit dans son épître, dans sa seconde épître, c'est ce qu'il, c'est-à-dire Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Je passe au deuxième point de la conclusion. La conversion de Paul, notamment sa vie qui a complètement changé après avoir rencontré Christ, doit être une exhortation pour nous chrétiens. Il est probable que beaucoup de gens se sont convertis en voyant vivre Paul autant que peut-être qu'en entendant ce qu'il disait, que ses paroles. Et ceux qui voyaient sa piété, sa consécration, son désintéressement, son dévouement, son courage, sa patience, sa sagesse, son amour, etc., avaient certainement envie de rencontrer Christ par eux-mêmes. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent cet aspect comportemental du témoignage, parce que beaucoup parlent mais ne font pas. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a écrit un livre intitulé L'Antéchrist. Mais ce n'est pas contre Christ qu'il a écrit ce livre. Nietzsche, c'est plutôt contre une certaine hypocrisie de certains chrétiens qu'il a vu vivre autour de lui, puisqu'il est né dans un milieu chrétien et qu'au départ il se destinait lui-même à être pasteur. Cependant, il a gardé une certaine amertume devant ces mauvais témoignages, au point qu'il a écrit quelque chose qui devrait, bien que faux, devrait nous donner à réfléchir. Il a dit, il n'y a eu qu'un seul vrai chrétien, malheureusement, il est mort sur une croix. Bien que ce jugement de Nietzsche soit inexact, bien sûr, parce qu'il a toujours existé dans l'histoire de l'Église des chrétiens fidèles. Mais ça devrait quand même nous donner à réfléchir. En tant que croyants, donc, nous sommes appelés à vraiment faire attention à notre manière de vivre et nous devrions faire en sorte que notre comportement reflète nos paroles et surtout donne envie aux gens qui nous entendent et qui nous regardent vivre de connaître Christ pour eux-mêmes, de rencontrer Christ pour eux-mêmes. Conclusion des conclusions, dans le livre le plus imprimé après la Bible, L'imitation de Jésus-Christ, on peut lire ceci. Ce sera la conclusion. Oh, s'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchement chez les chrétiens. Certes, au jour du jugement, on ne nous demandera pas ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole et tout ce qu'elle nous apporte. Merci pour tous les encouragements que nous a apportés le témoignage de très fort de l'apôtre Paul. Et vraiment, nous te remercions que la parole que tu nous as donnée et que tu nous as transmise pendant des siècles et des siècles est fi entièrement fiable et digne d'être reçue. Merci Seigneur pour tous ces signes qui nous fortifient ce matin dans notre foi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.